Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du débat politique de Radio Ndekeluka. Nous le consacrons aujourd'hui au sujet d'actualité, la demande de la levée d'immunité parlementaire des quatre députés de l'opposition démocratique, à savoir Anissé Georges Dologuili, Martin Ziguele, Abdoukarim Mekassoua et Aurélien Simplizingas. Le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré la recevabilité de cette demande émise par le premier juge d'instruction via le ministre intérimaire de la Justice. Et les procédures sont donc lancées. Cette affaire alimente les débats ces derniers jours. Selon l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu et jugé dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, en cas de flagrant délit, il peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée ou de son bureau. Question, le gouvernement est-il dans la logique en poursuivant ses élus? Que reproche-t-on à Abdoukarim Mekassoua, Aurélien Simplizingas, Anissé Georges Dologuili et Martin Ziguele? Quels sont les enjeux de cette action judiciaire? Est-ce un acharnement politique contre les poids lourds de l'opposition? Pourquoi cette enquête judiciaire à l'approche de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce la traduction en acte de l'engagement du président Touadéra dans la lutte contre l'impunité en Centrafrique? Pour répondre à ces préoccupations, je reçois autour de cette table du studio B de Radio Ndekeluka M. Joseph Bindunga, opposant, désormais député de la nation. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando.
Monsieur Alexis Nduyabela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller politique du Premier ministre et ancien directeur de l'École nationale et d'administration. École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Et M. Paul Cresson Bininga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, docteur en sciences politiques. M. Bininga, bonjour.
Bonjour.
Je suis Armand Nguendi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, mais l'actualité oblige, hein. Nous allons faire le tour avec ce deuil qui a frappé nos voisins, le Tchad. En ce moment, le maréchal Idriss Déby est mort au front et actuellement le deuil se poursuit. Et nous allons rapidement faire le tour de tout le monde. Monsieur Nduyabela, quels sont les enjeux selon vous du décès du maréchal Idriss Déby par rapport à la sous-région?
Armando, je m'incline devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby. En ce moment, toute la communauté internationale, y compris le président de la République, chef de l'État, là-bas sur place, en train de suivre, de participer à la cérémonie des obsèques du président Idriss Déby. Bon, quel enjeu ça porte? Idriss Déby est le grand guerrier. Il a défendu Mordigou, c'est un peu la sous-région, en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram. Et qu'avec sa disparition, on est un peu inquiet, que même la population de la sous-région, pas simplement la puissance africaine, est un peu inquiète. La disparition de celui qui s'est battu corps et âme pour lutter contre le phénomène de terrorisme. Et donc avec sa disparition, on se pose la question, est-ce que le Boko Haram ne serait pas éventuellement au portail de la République centrafricaine? Voilà un peu les préoccupations que
inquiétudes
en ce moment. Alors, on attendra de voir la suite des événements.
Oui, M. Paul Cresson Bininga, qu'en dites-vous sur cette situation, le décès du maréchal Tchadien Idriss Déby Itno?
Je saisis une fois de plus l'opportunité qui m'est offerte pour présenter mes condoléances au peuple tchadien, qui est un peuple ami et frère. L'Afrique en général et la sous-région Afrique centrale a perdu un guerrier, comme l'a dit le professeur Ndui, a perdu un grand défenseur. Déby, dans sa quête de leadership sur le plan militaire et sécuritaire, s'est fait le protecteur de cette sous-région contre le djihadisme, le terrorisme, mais aussi contre le phénomène des pirates, aussi bien dans le golfe du Guinée que dans le bassin du lac Tchad. Mais il faut le dire également, Déby n'est pas que ce gendarme-là dont on loue les actes de bravoure, mais Déby également a été un acteur controversé dans la crise centrafricaine, ça il faut le dire, et également sur le plan national, passez-moi l'expression, la tautologie, les actes que pose Déby ne sont pas appréciés parce qu'à un moment donné, l'opinion est divisée. divisée. On a vu récemment avec les élections qui viennent d'être organisées, c'était une élection contestée où certaines franges de l'opposition démocratique a été écartée et ça a donné les résultats qu'on a eu, 79%. Donc la longévité au pouvoir également, c'est des choses qu'il faut décrier parfois parce que ça fait en sorte qu'on rentre dans une sorte d'un régime despotique, un régime de dictature, un régime qui parfois essaye de museler les libertés d'expression. Et donc c'est un personnage de mon point de vue qui a un bilan mitigé au plan continental, au plan de la sous-région. Il a beaucoup œuvré pour la paix, ça il faut saluer cela, mais dans la crise centrafricaine il a un bilan mitigé, il est controversé et sur le plan national également sa politique parfois est remise en cause. Mais nous saluons tout de même la mémoire de ce grand homme, de ce grand fils d'Afrique.
Voilà, monsieur Joseph Bindounga, sur ce point, le décès de Maréchal Idrissa Déby.
Vous savez, le décès d'un être humain est toujours quelque chose de très émouvant, les circonstances dans lesquelles Déby est mort. Mais dire que pleurer Déby, pour le centrafricain que je suis, victime de Déby, victime du Tchad, et de beaucoup de Tchadiens, hormis ses interventions pour pacifier certains pays d'Afrique, mais de mémoire de centrafricains, c'est parce que les centrafricains ont la mémoire courte que les gens vont pleurer Déby, mais moi je ne pleure pas Déby, et beaucoup de Tchadiens ne pleureront pas Déby, parce qu'il a été, il est l'alpha et même l'oméga de beaucoup de crises en Centrafrique. Donc il a défait le régime Patassé, c'est lui qui a renversé Patassé et installé Bozizé au pouvoir, et cet hydre, ce monstre, parce que Déby et Bozizé ont été frères d'armes à l'espoir.
Ça, c'est à boire.
À boire, oui. Donc, il nous a donné un monstre comme président de la République et les deux ont l'habitude de faire la guerre et de n'avoir pitié de personne. Donc, vous savez, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Je ne me moque pas de Déby. Je respecte son âme et qu'il rende compte. S'il n'a pas pu rendre compte aux Tchadiens, mais il comparaîtra devant la justice du bon Dieu.
Mais oui, mais sur cette question d'accusation portée contre Idrissa Déby Itno, à chaque fois les Centrafricains pointent du doigt à ce monsieur, mais nous, jusqu'à présent nous n'avons pas encore des preuves qu'il faut palpables, parce que c'est pas parce que la rébellion à chaque fois vient vers le nord de Centrafrique juste à poser au Tchad.
Monsieur Armando, ce n'est pas une accusation gratuite. Joseph Bindounga qui parle, qui vous dit ce qu'il vient de dire, a plusieurs fois écrit, a plusieurs fois dénoncé sur les ondes des radios, y compris de Ndeke Luka, ce que Déby représente pour la République centrafricaine. Quand les libérateurs ont accompagné Bozizé pour venir renverser Patassé, ils ont défait l'économie centrafricaine. Des usines entières ont été démontées et emportées au Tchad, au vu et au su de Déby. Un État qui fonctionne ne peut pas accepter que des biens pillés dans le pays voisin puissent rentrer dans son pays. Et prenez l'exemple de tous les rebelles qui sévissent en Centrafrique. Quand ils arrivent au Tchad, Déby les arrête. Ensuite, leur fait une promotion. Babalade et même Kumta Madi et que sais-je encore. Donc ce n'est pas du mensonge au nom de Déby. Normalement, la République centrafricaine doit engager des poursuites contre le Tchad qui a été de beaucoup dans la démolition, la destruction de la République centrafricaine.
Mais pas seulement le Tchad, parce qu'il y a la porosité de nos frontières avec le Tchad, avec le Soudan, avec d'autres pays.
Est-ce que vous voyez,
nous avons parmi les groupes armés, les Soudanais et autres.
Écoutez, ce que Déby a fait à la République centrafricaine, si un centrafricain me dit qu'il ne connaît pas, mais c'est que ce centrafricain est un menteur. Déby a un côté positif.
Oui, et ce côté positif, c'est quoi, par exemple?
Ce côté positif de Déby, c'est quelqu'un qui connaît la guerre, qui maintient la science de la guerre et qui est en quelque sorte un mercenaire au service de la communauté internationale pour combattre d'autres mercenaires. Donc, vous voyez, la communauté internationale qui n'a pas les moyens de combattre les terrorismes, les djihadistes et autres, alors que la solution est simple, malheureusement, ils se sont appuyés sur un dictateur et grâce à ce dictateur-là, ils arrivent à se maintenir. Et la solution aux crises au Mali, partout, même autour du lac Tchad, les solutions doivent venir des des hommes de ces pays, des femmes de ces pays, et non d'un super-héros qui est là, qui fait la guerre avec tout le monde et qui empêche son peuple de vivre et de se développer.
Oui, M. Paul Cressa Beninga, sur ce point du décès hein, d'Idriss Déby Itno, rapidement, vous voulez réagir?
Non, juste une réaction. Lorsque vous avez posé la question à M. Benunga, qui est celle de savoir est-ce que ce n'est pas une accusation fortuite? Non, ce n'en est pas une. Je vous donne un exemple simple. Il a cité quelques exemples. Souvenez-vous, en 2014-2015, si mes souvenirs sont exacts, le contingent tchadien, ici en République centrafricaine, a tiré sur les populations civiles à Gobongo. Ça a fait l'objet d'une tension diplomatique entre le Tchad et la République centrafricaine parce que le président Déby, et à l'époque l'actuel président de la Commission de l'Union européenne, Faki Mahamat, avait refusé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Il avait botté en touche cela. Alors que le gouvernement de la transition, d'une part, et les organisations de la société civile, d'autre part, ont pointé du doigt la responsabilité de Déby. Un autre exemple, au plan diplomatique, à Malabo, lorsqu'on parlait de la transition, à l'initiative de Déby, il a demandé effectivement à la présidente Catherine Samba-Panza de sortir de la salle pour qu'on délibère comme si ce n'est pas un chef d'État, au même titre que Déby, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a des exemples en ce qui concerne la République centrafricaine. On peut multiplier à dessein ces exemples pour témoigner de ce que, effectivement, Déby a été un personnage controversé dans les multiples crises auxquelles le pays est confronté. Et je finirai par ce qui a été dit ici. Vous voyez, par exemple, la rébellion de 2001-2002-2003, où se trouvait la base arrière des libérateurs, c'était au Tchad. L'escadron blindé tchadien a participé à la chute du président Ange-Félix Patassé. Et pour preuve, après la chute du président Félix Patassé, cet escadron blindé fait partie du dispositif de sécurité de François Bozizé pendant un moment. Donc, je pense que ça reste quand même un personnage controversé. Et je finirai sur l'aspect géopolitique et géostratégique qui a été abordé ici par le professeur Ndui. C'est de dire qu'il ne faut pas aussi être pessimiste, c'est vrai. Le bassin du lac Tchad, le golfe de Guinée, le Sahel, Déby a été pour beaucoup dans la dynamique de protection des personnes dans ces régions précitées. Mais il revient également aux États qui sont souverains oui. aujourd'hui de mettre en place une dynamique permettant effectivement de sécuriser le bassin du lac Tchad, de sécuriser le golfe de Guinée, de sécuriser le Sahel. Et il ne faut pas mettre de côté le Tchad parce que c'est lui qui aujourd'hui a remplacé Déby qui, bon gré mal gré, est son fils, doit continuer également à jouer son rôle parce que le Tchad également fait partie du bassin du lac Tchad, du golfe de Guinée, et donc il revient également de sa responsabilité.
Merci beaucoup. Quelques secondes, oui.
Oui, juste un petit mot. Vous voyez par exemple la succession de Déby. C'est le clan Zakawa, avec le fils de Déby comme chef, qui tord le cou à la démocratie. Cette même constitution que Déby impose aux Tchadiens de respecter, mais lui, Déby, il n'a jamais violé. Et aujourd'hui, la légalité constitutionnelle a été foulée aux pieds et la communauté internationale, et plus précisément M. Macron, ont eu à valider, à légaliser cela. C'est une honte et nous devons le déplorer.
Nous allons mettre un terme à ce point d'actualité, n'est-ce pas? Et nous revenons à notre sujet aujourd'hui qui parle de la demande de la levée d'immunité parlementaire des 4 députés centrafricains de l'opposition démocratique, à savoir Anessé-Georges Deleguélé, Martin Zeguélé, Aurélien Simplice Zingas et Abdou Karim Mekassoua. Première question à vous, M. Ndouya Bila, pourquoi cette action judiciaire contre les leaders de l'opposition, selon vous?
Pourquoi cette action contre les leaders? Je vous renvoie directement à l'article 23 de la Constitution de notre loi fondamentale. Que dit cet article? Tout individu habitant le territoire national doit respecter la Constitution, la loi et les règlements. Si une action a été menée contre les députés, c'est au regard... Enfin, je crois que cette question, il faudrait la poser directement au juge d'instruction. Tout à l'heure, quand vous avez introduit le débat, vous avez dit que c'est le gouvernement qui déclenche une poursuite judiciaire.
Le gouvernement a fait le soit transmis.
C'est ce qu'on lit dans les réseaux sociaux et dans la presse centrafricaine. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le juge d'instruction qui a introduit une demande oui. en uniforme pour...
Via
son ministre de tutelle.
C'est ça, il donc, est membre du gouvernement.
Il y en a qui ont dit que c'est le ministre de la justice qui a introduit la demande alors que c'est faux. C'est le juge d'instruction qui a introduit la demande et si on regarde très bien la correspondance, l'objet de la correspondance est « lettre de soit transmis au président de l'Assemblée nationale ». Donc ce n'est qu'un « soit transmis ». Donc la demande émane, et c'est dans le cadre des prérogatives du juge
d'instruction. C'est ce que nous avons dit dans nos propos.
Voilà, c'est ce que vous avez dit. Dans le cadre de ces prérogatives, c'est prévu dans l'article 52 du Code de procédure pénale, qui est là tout. Pouvoir d'utiliser tous les actes possibles en vue de parvenir à la manifestation de la vérité. Donc voilà où nous en sommes. Alors vous dites pourquoi est-ce que c'est une action orientée particulièrement par
et
le gouvernement
ça,
contre les leaders de l'opposition démocratique? Non, le juge d'instruction, c'est une. Vous savez, dans le cadre de la crime et délit, l'instruction préliminaire est obligatoire. Et donc c'est le travail du juge d'instruction. Dès qu'il est en possession d'éléments, automatiquement, il établit la liste et il doit procéder à des auditions pour parvenir à la manifestation.
Mais nous
de
allons
la
revenir,
vérité.
Nous allons revenir pour
voir on dans le détail.
Les, voilà, les procédures, si parce que déjà il y a eu des tractations avant que cette demande soit adressée directement à l'Assemblée nationale. Nous allons voir comment est-ce que nous arrivons à ce niveau, parce qu'il y avait eu l'interdiction de certaines personnes avant même la demande du juge d'instruction. Monsieur Joseph Bindunga, sur ce même point, vous avez votre réaction rapidement, on évolue.
Armando, quand j'ai appris la démarche judiciaire contre ces trois dignes centrafricains, vraiment ma première réaction, c'est un étonnement. Brusquement comme ça, la justice centrafricaine s'intéresse à des citoyens qui n'ont pas posé des actes qui ont mis en danger la vie de la République centrafricaine. Mais c'est après que le CPC a eu à attaquer Bangui, que c'est parce que le CPC est arrivé à Bangui que brusquement comme ça, la justice centrafricaine devient active. Bon, que cela se fasse. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. On a demandé la levée de leur immunité. Mais pour quel fait? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Il faut qu'on le dise, que les centrafricains le sachent. Je connais ceux qui tuent, qui pillent, qui brûlent ce pays et qui sont reçus au palais de la Renaissance. Est-ce qu'il y a eu une action en justice menée contre le fameux président de Bambari et Bokolbo? Je voulais parler de l'autre là.
Ali
Darassa. Est-ce qu'on a monté une procédure contre ce monsieur? Est-ce qu'on a monté une procédure contre celui qui est mort, Sidiki, les autres chefs? Et ce qui est bizarre, la personne qui a demandé à la justice de lever l'immunité, c'est un Séléka. C'est un Séléka.
Vous voulez parler de qui?
De Dubaï.
Le ministre intérimaire.
Oui, le ministre intérimaire de la justice. C'est un Séléka. Il est au gouvernement au nom de la Séléka. Et des Séléka qui sont pleins. Il y a Arnaud Dubaï, Abazen, à qui c'est l'autre là, son neveu, le ministre des Mines ou de quoi là, dont le nom m'échappe. Donc, c'est qu'on va utiliser des criminels pour poursuivre et traquer les dignes fils de Centrafrique? Non, je pense que...
Mais déjà, dans vos dires tout à l'heure, vous-même, vous vous demandez pourquoi on monte des procédures, et vous avez dit que vous ne savez pas pourquoi. Mais jusqu'à présent, c'est cette question que nous posons, nous ne savons pas. Mais ce n'est peut-être après. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'ils sont innocents ou ils font rien?
Écoutez, toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à l'établissement des preuves de sa culpabilité. Mais lorsque des actions judiciaires sont menées contre des citoyens, on doit savoir pourquoi la personne est poursuivie. Admettons qu'on dise à Zigele, à Ndorogele, pourquoi tu es allé voir Bozizé à l'autre là? Si c'est pour ça qu'on le poursuit, eh bien je dis non. Si on les poursuit parce qu'ils ont fait partie d'une bande, d'un groupement politique dont Bozizé est venu se greffer dessus, eh bien si c'est ça, vraiment c'est regrettable parce que ils ont raté le coche, comme je le dirais.
Je voudrais rectifier rapidement, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut comprendre, et puis il faudrait que les centres, comme vous l'avez dit, les centrafricains doivent comprendre ce qui se passe, pourquoi. Est-ce qu'ils sont poursuivis? Dans la lettre de Dubaï à Bazen, je le répète, il ne faudrait pas qu'on induise les centrafricains en erreur en disant que c'est le ministre qui a adressé la demande de lever l'immunité parlementaire. C'est faux. C'est le juge d'instruction qui a adressé la demande et le ministre de la justice n'a fait que transmettre.
Je suis bien d'accord avec
voilà,
vous.
Et voilà. Donc ça,
je
on ne compte pas.
Je suis bien d'accord
pas
avec vous.
Et maintenant, le ministre, dans sa correspondance, a précisé que sur ses personnalités pèse un certain nombre de présomptions de culpabilité. Il s'agit simplement de présomptions simples. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables directement. Ce sont des présomptions. Et ce ne sont pas des présomptions irréfragables. Ce ne sont que des présomptions simples. Il appartiendra maintenant au juge d'instruction quand il les aura. Quand l'immunité sera levée, il va les auditionner et après, il va se prononcer. Et donc, il sera devant une alternative. Soit rédiger une ordonnance de renvoi devant la cour criminelle, soit une ordonnance de non-lieu. Et si ils sont non-lieu, ça veut dire que Il n'y a rien puisque le juge d'instruction instruit à charge
et à décharge.
Ça, vous le savez très bien. Et donc, pour l'instant, on ne doit pas dire que d'emblée, ils sont poursuivis, donc ils on peut leur reprocher quoi que ce soit. On n'en sait rien.
D'accord.
Il faudra attendre.
Monsieur Joseph Venega, si ça vous va, je donne la parole à monsieur.
Non, je dis que si tu me permets, s'il te plaît.
Non, président, sinon je ne vais pas parler. Bon. Ça fait votre droit le plus absolu.
Non, vous avez négocié en vain, donc, monsieur Paul Christian Venega.
Non, Armando, je te remercie de m'avoir fait participer à ce débat. Ce débat, il est à la fois technique et politique. Et je me réjouis que j'ai autour de cette table le professeur Nduyabla et monsieur Bendunga Joseph. Je dois dire que, avant de répondre à votre question, je dois prendre au mot le professeur Nduyabla qui a évoqué la question de la présomption de culpabilité. Mais cette présomption de culpabilité, vous le savez, professeur, elle est intimement liée à la présomption d'innocence. On ne peut pas parler d'une présomption de culpabilité sans pour autant parler de la présomption d'innocence. Ma foi, ce que je regrette dans le courrier ou le soit transmis du ministre Garde des Sceaux, par intérim, il faut le préciser, c'est le fait aujourd'hui de mettre l'accent sur la présomption de culpabilité sans pour autant faire comprendre aux Centrafricains qu'il y a une présomption d'innocence. Et c'est cette présomption-là qu'on met en avant. Et puis, on sait que lorsqu'il y a présomption d'innocence, il y a présomption de culpabilité. Ça traduit, si vous voulez, ça traduit l'orientation que ce ministre veut donner à cette affaire-là. Le fait de mettre en exergue la présomption de culpabilité, non. Ça c'est d'un. De deux, il y a également une erreur sur la forme, et vous n'allez pas me contester là-dessus, professeur, c'est de ma part, du moment où il existe déjà un ministère qui est un ministère d'intermédiation entre le gouvernement et les autres institutions, est-ce qu'il appartient au ministre par intérim de la justice de faire ce soit transmis ou
c'est ça, la
au ministère des relations
avec
les institutions de faire acheminer ce dossier-là au Parlement. Ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, pour répondre à votre question,
rapidement,
et le président Bendunga l'a rappelé ici à la fin de son propos, moi j'ai été clair vis-à-vis de la Côte 2020. Je n'ai rien contre ces leaders, mais j'ai interpellé la Côte 2020 lorsque la Côte 2020 est restée silencieuse sur le phénomène CPC. La Côte 2020 est une plateforme qui regroupe des partis politiques et ces partis œuvrent dans le cadre d'une démocratie, dans le cadre de la reconstruction d'une démocratie.
Et à partir de ce
moment, de l'opposition. À partir de ce moment, j'avais trouvé un peu gênant le silence des partis politiques membres de la Côte 2020. Pour moi, ils auraient dû condamner fermement la CPC. Mais comme le président Bendunga a dit, est-ce parce que ces leaders des partis politiques appartiennent à la Côte 2020 qu'il doit faire l'objet d'une poursuite judiciaire?
Je vous rappelle que Martin Ziguele ne fait pas partie
pour l'instant. J'en viens. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre le phénomène. Ce d'autant plus que des quatre, Martin Ziguele est l'un, je ne le défends pas, non loin de là, mais est l'un des leaders politiques avec le président Bendunga. C'est des gens qui sont très virulents vis-à-vis de Bozizé. Et aujourd'hui, si on pense qu'il est de connivence avec la CPC, parce que si on lit le courrier, malheureusement ça a fuité, je ne sais pas comment ça s'est fait, pour que tout le document a fuité. Quand on lit ce courrier, on se rend compte que les griefs qui sont reprochés à ces leaders, les quatre leaders, c'est le fait effectivement d'être de connivence avec la CPC. C'est ce qu'on veut faire clairement ressortir dans ces griefs-là. Pour moi, vous voulez, je ne veux pas faire office d'obstacle à la justice centrafricaine. Mais je veux que cette justice soit indépendante, véritablement indépendante. Et des cas ont été relevés ici. Mais ces cas que vous avez relevés, président Bendunga, c'est des cas en réalité pour des gens qui ne sont pas encore condamnés. Mais disons qu'ils ont une présomption de culpabilité, sinon une présomption d'innocence. Mais je vais vous citer un autre cas. C'est quelqu'un qui a été condamné par contumace. C'est Abdoulaye Hissène.
Qui est à Bangui?
J'apprends qu'il est à Bangui. Abdoulaye Hissène a été condamné par contumace. Cette justice, pour convaincre les Centrafricains, doit commencer par ceux qui ont été déjà condamnés. Ça donnerait effectivement du crédit à la justice. Mais le fait aujourd'hui, par exemple, de laisser Abdoulaye Hissène vaquer librement à ses occupations...
Malgré qu'il a été déjà, selon vous, jugé.
Jugé et condamné.
Ah bon?
Oui, par contumace. Et donc, à partir de ce moment, ça gêne. Et donc, moi, je voudrais finir en disant ceci.
Oui, finissez rapide.
C'est également, et ça, le professeur Nduyabla ne peut pas me contester, la justice, on peut également juger de son opportunité. Je ne veux pas dire classons le dossier sans suite. Mais je dis, du moment où le président de la République est en train d'organiser une concertation en vue d'organiser un dialogue républicain, ça veut dire que l'initiative vise à décrisper la tension politique. Et si on veut décrisper la tension politique, on doit effectivement éviter peut-être certains actes qui peuvent déboucher sur une crise politique
Ce d'autant plus que, et je finis par là, ce d'autant plus qu'aujourd'hui, la RCA est confrontée à une crise sécuritaire. La politique de reconquête du territoire que je salue, et du territoire centrafricain des mains des groupes armés, est en cours. Est-ce qu'il n'est pas opportun de terminer avec la crise sécuritaire pour pouvoir lancer d'autres initiatives?
Et ça, nous allons revenir sur cette interrogation peut-être à la fin de ce débat pour voir comment faire pour décrisper cette situation, atmosphère que nous connaissons en ce moment. Mais jusqu'à présent, les concernés disent ne pas être en possession du document les mettant en cause dans cette affaire du coup d'État manqué de l'ancien président François Bozizé. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça rapidement, M. Ndouyabila?
Est-ce qu'ils doivent être au courant d'un document les mettant en cause? Je dis, c'est une...
Est-ce qu'on ne doit pas les informer que vous êtes...
Non, c'est une instruction préliminaire. Ce que j'explique, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Le code pénal prévoit que le juge d'instruction procédant, il doit écouter des individus. Et sur la base, ça peut tomber sur vous comme moi. Et sur la base de nos déclarations, et puis ça va donner des opportunités au juge d'instruction d'élargir encore son champ d'investigation.
Mais est-ce qu'on a besoin?
Il faut comprendre.
Est-ce qu'on a besoin?
Mais attendez, il faut préparer. Parce que tout à l'heure, on n'a même pas bien planté le décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux individus dont le nom a été cité. Il y a l'ancien ministre Maliombo,
oui,
qui lui avait déjà fait l'objet d'une arrestation. Et on a effectué une descente à son domicile, a eu des perquisitions, on a trouvé des documents suspects. Et donc lui, cette affaire, ça le monte à fin 2020. Et après fin 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Les événements que tout à l'heure on a décrits avec la CPC ont conclu effectivement que sur la base de ces documents, voilà, il y a eu, et puis il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Le 13 janvier. Ça, tout le Centrafricain sait. Le 16 janvier, il y a eu tentative déstabilisation des institutions de la République, ce qui est condamné par le code pénal. Le code pénal interdit, c'est considéré comme un crime contre la nation, contre la paix publique. Donc voilà les éléments de droit et sur la base. Et donc à partir du 13 janvier, le juge d'instruction a écouté un certain nombre d'individus qui étaient interceptés et sur la base de cette déclaration, il procède à des investigations. C'est ainsi que, je crois que l'information a été donnée et communiquée au procureur de la République qui lui a fait encore un réquisitoire supplétif en rajoutant encore d'autres noms.
Mais
et donc, parmi ces listes figure éventuellement les noms de ces personnalités politiques pour lesquelles on demande la levée de l'immunité de parlementaires.
Mais monsieur, pour les écouter, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on a besoin de procéder à la levée de leur immunité?
Mais bien sûr, en matière criminelle, il faut. Mais un député est couvert par l'immunité parlementaire pour l'auditionner. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.
C'est seulement pour les écouter.
Pour les auditionner, et bien s'ils sont. Sur eux, la présomption de culpabilité. Si les éléments, en les écoutant, le juge conclut en leur culpabilité, il peut leur délivrer un mandat de dépôt. Et là, ils sont immédiatement déférés. Et donc, en matière criminelle, puisqu'ils sont couverts par l'immunité parlementaire, il faut. Là encore, vous voyez, je pense qu'il y a le président.
Quelques secondes.
Je précise, j'apporte une certaine précision. On a cité, par exemple, l'objet de Mapimzi qui a été auditionné par la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'a pas la même procédure d'investigation que la Cour criminelle. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Cour des comptes, c'est un juge.
Mais il était
de compte.
Député.
Oui, mais il était député. Mais là, en plus, c'est une juridiction administrative spécialisée. Ce n'est pas une juridiction criminelle. Et là, c'est une information qu'on donne, puisque la Cour de compte ne rend que des rapports, et sur la base de ces rapports, on peut déférer ça aussi à la Cour de
compte.
Donc, c'est pas la même procédure devant la Cour de compte n'est pas assimilable à celle devant la Cour criminelle, parce qu'il y va par la suite, il y va de la condamnation des individus en cause.
Vous avez épuisé votre temps rapidement, M. Joseph Benouga.
Non, c'est pas rapidement, parce que depuis longtemps...
Non, je vous donne 2 minutes. Maintenant, j'ai le chrono que je contrôle.
Je voulais dire une chose. Dans un pays où pullule des criminels qui ont foulé aux pieds les droits humains les plus élémentaires, et ces gens-là sont conseillers à la présidence, sont dans le gouvernement, faille-t-il que sur la base de simples présomptions, la justice va s'intéresser à des gens et pour après dire que ces gens-là n'ont rien fait? Non, je pense que les Centrafricains ne sont pas des imbéciles. Il ne faut pas aller à la Sorbonne, ni à Oxford, ou bien à Cambridge pour faire ses études et venir interpréter le droit en République Centrafricaine. C'est de l'imbécilité juridique. C'est Joseph Bendunga qui le dit. Je suis prêt à m'assumer. Le juge qui veut me convoquer, qu'il le fasse. Je viens et on me chausse les menottes et on m'amène à Ngaraba quand je vois qu'ils sont conseillers. Ils sont ministres à la présidence, ils sont ministres, ils sont conseillers à la primature, ils sont dans toutes les institutions de la République et on va chercher des poules sur des crânes rasés pour pouvoir demander à des citoyens respectables d'aller se justifier devant le juge. Je pense que la justice centrafricaine est une justice à deux vitesses et je demande à ce que nos juges puissent s'assumer que l'indépendance de justice, comme cela se doit exister en Centrafrique parce que sans la justice, la République, il n'y aura jamais de paix en Centrafrique. Et sans la justice, il n'y aura pas de paix dans le monde.
Quelle contradiction, M. Armando ? C'est vrai, je ne comprends pas. Est-ce que la justice doit faire son travail ou pas ?
Oui. Quand c'est quelqu'un qui poursuivable qui va demander au juge de s'intéresser au cas de quelqu'un, de lui transmettre les papiers, c'est une honte. Et c'est une aberration.
Poursuivons ce débat avec cette information sur les soupçons qui pèsent sur les quatre députés dans l'affaire François Bozizé et autres. Notre reporter Inès Laure Ngopo est tombé sur des documents confidentiels fuités sur les réseaux sociaux.
La semaine dernière, la justice a demandé à l'Assemblée nationale la levée d'immunité parlementaire des quatre députés précités afin de les auditionner. Selon plusieurs documents confidentiels de la justice qui ont fuité sur les réseaux sociaux, les quatre parlementaires devront être auditionnés dans le cadre d'une enquête ouverte contre François Bozizé, son proche Thierry Savonarole Maliombo et plusieurs autres personnes. À en croire ces documents, l'ancien président et ses présumés complices sont soupçonnés pour au moins 8 chefs d'accusation. Il s'agit d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association des malfaiteurs, rébellion, complot, participation ou adhésion à des mouvements de désordre ou de rébellion contre l'autorité de l'État, destruction volontaire des biens, enfin, complicité. Martin Ziguélé, Anissé-Georges Dologuélé, Abdou Karim Mekassoua et Aurélien Simplice Zingas sont-ils tous sous le coup des mêmes chefs d'accusation que François Bozizé? Il est encore difficile de répondre à cette question car selon des sources judiciaires contactées par Radio Ndekeluka, le dossier est en instruction. Nous pensons qu'il est inadmissible que des documents confidentiels sous scellés se retrouvent sur les réseaux sociaux, déplore Narcisse Issa Bedengba, premier juge d'instruction spécialisé, rappelant la nécessité du respect du secret de l'instruction. Il précise par ailleurs que malgré cette enquête ouverte, les quatre parlementaires bénéficient, comme la Constitution le prévoit, de la présomption d'innocence. L'un de ces documents en circulation précise également que les quatre députés visés par cette procédure judiciaire font l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national depuis le 18 janvier 2021.
Voilà, sur cette question, vous avez écouté M. Paul-Christian Beninga, ces quatre députés, avant même la procédure lancée contre eux, ou bien les procédures, mais ils ont fait l'objet d'interdiction de sortir avant tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, puisque déjà il y avait des actions politiques sur le plan politique avant que les actions judiciaires ne soient mises en jeu.
Alors,
mises en action d'ailleurs.
L'interdiction de sortie faite à certains leaders politiques en République centrafricaine, notamment Anissé-Georges Dologuélé, Karim Mekassoua et dernièrement Martin Ziguélé, pour ma part, est un acte qui doit être condamné. Parce que j'estime que cet acte ne respecte pas la forme. Lorsqu'il y a une instruction judiciaire à l'encontre de certaines personnes, il serait mieux de notifier aux intéressés qu'il y a une instruction judiciaire en cours à votre encontre. Et à partir de ce moment-là, par exemple, le juge d'instruction décide de ce que vous ne pouvez pas sortir du pays parce qu'il y a des risques que vous échappez à la justice. Mais laissez l'intéressé aller se rendre compte à l'aéroport qu'il est interdit de sortir, je pense que ça manque un peu de classe et d'élégance. Ça manque un peu de classe et d'élégance. Et ça témoigne également de ce que on pourrait suspecter la justice d'être instrumentalisée. Je donne un exemple simple. Anissé-Georges Dologuélé, il me semble, a voulu sortir pour la première fois. On lui a dit, tu ne peux pas sortir, il faut remplir un certain nombre de conditions. Peut-être au nom de l'état d'urgence, que sais-je. Encore que, qu'on nous dise clairement ce que l'état d'urgence comporte comme mesure à respecter. Deuxièmement, il a posé les actes qu'on attend de lui avant qu'il ne sorte. Et c'est à ce moment-là qu'on a confisqué ses deux passeports. Et donc, à partir de ce moment, vous voyez que telles que les choses sont passées, il y a quand même une volonté d'humilier l'individu. Il y a une volonté de rabaisser l'individu. Et c'est pourquoi j'ai dit, vraiment de façon, avec beaucoup d'euphémisme, que ça manque de classe et d'élégance. Maintenant,
la question de la levée d'immunité. Moi, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. On veut lever les immunités parlementaires de ces quatre personnes. Plus précisément, Karim Ekassoua, Chemin de l'Espérance, Anissé Jordolo-Guélé, URCA, Martin Ziguélé, MLPC et Aurélien Simplice-Ingas, PDS Kelimba. Ou Kelimba, PDS, que sais-je. Mais moi, je voudrais qu'on soit clair. Lorsque le professeur dit aussi que c'est une audition dans le cadre d'une action, d'une infraction criminelle, est-ce qu'aujourd'hui, le juge d'instruction a retenu les charges pour demander la levée d'immunité? Est-ce que sans lever les immunités de ces parlementaires, on ne peut pas les auditionner d'abord? Ensuite, si on retient les charges constituent, de mon point de vue, les arguments qui pèsent et permettant de demander la levée de leur immunité. Aujourd'hui, sur quelle infraction le juge se base pour pouvoir demander la levée d'immunité? Je suis naïf de ce point de vue-là, donc je pose vraiment la question.
Vous posez la question, est-ce que M. Ndouya-Bella voudrait bien répondre rapidement?
Je vais répondre très rapidement. En fait, le reporter, toi, tout à l'heure, l'a rappelé. Donc, le juge d'instruction a énuméré un certain nombre d'infractions qui pèsent contre, à l'encontre de ses personnalités.
Vous permettez?
Oui.
Non, le juge d'instruction, est-ce qu'il a déjà retenu les charges? Il a énuméré les infractions. Il doit mener ses instructions.
Il a retenu les charges.
Pour retenir à charge ou à décharge.
Mais voilà. Mais donc, il est dans cette procédure-là. Mm-hmm. Mais puisque les députés sont couverts par l'immunité parlementaire, il ne peut pas les auditionner comme ça. Vous voyez, dans la procédure, vous dites on doit leur. Ce n'est pas une notification. C'est une citation et avec signification par le truchement des huissiers.
Non, la notification, je parle pour les interdictions de voyage.
Et là, je dis encore, pour l'interdiction de voyage, bon, à ma connaissance, je ne sais pas. Hein. Et comme vous le dites, peut-être vous en avez la preuve. Tout à l'heure, on est en train de parler de la lettre de transmission. Ça, moi, j'en ai la preuve. Voilà, elle est là. Je peux lire, je vois le numéro, tel, un document qui est disponible à ma disposition. Mais jusqu'à preuve du contraire, à ma connaissance, il n'y a pas eu un acte formel, je ne sais signé de qui que ce soit, interdisant à certaines personnes d'effectuer des déplacements en dehors de la République centrafricaine.
Non, professeur, vous permettez. Par rapport à la question du voyage, oui, si voilà. Vous permettez. Non, professeur, vous faites dans la langue de bois. Je vous dis pourquoi. Sauf si vous ne suivez pas les actualités. Mais l'actualité centrafricaine, que disent les médias? Lorsque Martin Ziguélé a été interdit de sortir, il y a des documents qui ont fuité. Il a rendu public les documents qu'il a prêtés. Il a saisi le ministère en charge de la sécurité publique. Le ministère en charge de la sécurité publique lui a adressé une réponse. Ces réponses-là sont sur la toile. Ces réponses-là sont à la portée de tout le monde. Ça, c'est d'un. De deux, vous le savez, par exemple, le passeport. Encore, ça c'est un autre débat. Le passeport français.
Mais non, mais ça
français,
je le sais. Non, sois imprécis. Oui. J'ai dit l'acte par. Oh, un acte pris par le gouvernement pour interdire la sortie de ces leaders politiques. Moi, je n'en ai pas vu.
Oui, là vous parlez du document.
Mais
il y a quand même un fait.
Un acte comme ça, il dit tel. Maintenant, Ziguélé, Doligélé, Anissé. Ils sont interdits de sortir du territoire.
Non, professeur, je finis par là. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça.
Oui,
professeur, je finis par là. Vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous êtes informé que Doligélé,
mais
qu'est-ce
que ça, je sais.
Ah, d'accord.
Mais oui, ok. Ça, je sais.
Qui a interdit à cette personnalité de sortir? Qui a interdit à cette personnalité de sortir?
Ça peut être une instruction peut-être verbale.
Bon, mais oui, mais ça reste un acte.
Oui, mais ça peut être une instruction verbale.
Oui, mais ça reste un acte.
Il n'y a pas de document qui justifie, qui atteste qu'ils sont formellement interdits de sortir de territoire. Ça peut être une instruction tout à fait verbale.
Oui, et cette instruction.
Voilà, par rapport à la procédure judiciaire.
Mais comme vous l'avez dit.
Est-ce que Bendunga peut parler?
Oui, allez-y, M. Bendunga, je vous donne la parole sur ce point. Par exemple, le chef de file de l'opposition, M. Doligélé, a publié que ces deux passeports ont été confisqués jusque-là par le commissaire de police, de l'aéroport, n'est-ce pas un abus d'autorité à ce niveau, monsieur Bendunga? Et là, on a, selon lui, tout a été publié sur les réseaux sociaux. Or, il besoin de présomption de
l'innocence. Cela prouve à suffisance que la République centrafricaine est une république bananière. C'est que ceux qui prétendent faire respecter la loi, ceux qui dirigent ce pays, mais ce sont des terroristes qui font la guerre aux droits et qui mérite d'être poursuivi. Malheureusement que c'est ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Depuis que M. Touadéra est président de la République, est-ce que vous avez vu quelqu'un aller tenir un meeting, faire une marche? Sauf ceux qui vont faire ces marches-là, tenir ces meetings-là pour le compte de Touadéra, pour ce qui arrange Touadéra. Et jamais l'opposition démocratique, pacifique, n'a eu à faire quoi que ce soit. Et quand on va jusque toucher aux libertés constitutionnelles, parce que quand vous prenez les articles de la Constitution, Vous commencez d'abord par le préambule. L'article 1 jusqu'à l'article 19, ce sont les libertés. Et c'est l'une des meilleures constitutions. Malheureusement, on a un régime dictatorial qui s'est installé en République centrafricaine et qui fait sa loi. C'est exactement comme au Tchad. Des billets morts, automatiquement, on met une structure en place alors qu'il y a la légalité qui est là, la constitution, la loi fondamentale qui est là. Donc, aujourd'hui, c'est une instrumentalisation à outrance de la justice qu'on est en train de nous démontrer parce que même l'état d'urgence est de 15 jours. On peut
renouveler,
mais dire que l'état d'urgence va jusqu'à 6 mois, comme c'est une république bananière, je ne me suis pas donné la peine d'attaquer cela parce que au pays des aveugles, les bornes sont rois et ceux qui dirigent ce pays-là sont des bornes et pensent que le peuple est aveugle.
S'il vous plaît, oui, monsieur Joseph, si ça vous permet.
Avec toute la sérénité.
Est-ce que vous voudrez bien que je pose la question, monsieur Bilabila, en attendant que vous
S'il vous plaît, professeur, défendez vos idées, je défends mes idées.
Oui, non, on est dans le débat. Il n'y a pas de
débat. C'est un débat.
Oui, voilà. Donc, quand. Oui.
Quand vous faites des affirmations, et quand tout à l'heure vous avez dit, je dis, bon, c'est un débat démocratique, tout à fait, on est là pour ça.
Voilà.
C'est un rendez-vous du donner et du décevoir. Ce que vous dites, si je ne suis pas d'accord, je conteste.
Oui, oui.
Lorsque vous avancez, par exemple, que bon, ben, je ne dis pas pour le plaisir de soutenir que depuis l'accession à la souveraineté nationale du président Fossé à Kantouadéra, les leaders partis ne sont jamais réunis. Il n'y a pas de congrès.
Quand est-ce que nous avons
marché? Il n'y a pas de meeting.
Quand est-ce que nous avons tenu?
Il n'y a pas de marche, etc.
Dites-moi, professeur.
Je dis, c'est faux.
Quand est-ce que.
Attends, mais pourquoi vous m'interrompez?
C'est faux.
Moi, je peux le dire avec des preuves à l'appui.
Oui,
que moi, conseiller auprès du Premier ministre, j'ai assisté à tous les congrès. Les instances démocratiques ou les partis politiques viennent s'exprimer et qui disent j'observe, ça c'est mon point de vue en tant que scientifique. Est-ce que faire la politique, c'est l'art de mentir? Est-ce que faire la politique,
c'est être scientifique, est l'art de mentir?
Monsieur Bendouga, est-ce que vous voudrez bien
que les congrès qui se tiennent dans des lieux clos sont des meetings, sont des marches?
Mais nous sommes en train d'ailleurs de sortir de ce débat parce que nous ne parlons pas de ça. Nous revenons rapidement. Oui,
je dois démontrer la faiblesse des autres.
Je vous le dis,
je lui démontre la faiblesse de sa manque de probité morale du professeur.
Je vous retire vous de la parole et puis nous tenons un débat dans la sérénité pour que les Centrafricains maîtrisent la quintessence.
Monsieur Armando, je reste serein.
Merci, je vous retire la parole.
Mais ce que je n'accepterai pas, c'est qu'on essaie de faire avaler des couleuvres centrafricaines.
Paul Christian Beninga, vous réagissez rapidement. Aujourd'hui, sur ce point, des passeports du chef de file de l'opposition confisqués et par la suite, il s'est plaint parce que tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une dérive à ce niveau, selon?
Ça, c'est une dérive du moment où on n'a pas notifié à l'intéressé qu'il y a une instruction judiciaire à son encontre et que le juge d'instruction souhaitera à ce qu'il ne puisse pas sortir du territoire. Mais si il a été notifié, ce n'est pas une dérive, ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi je dis que je ne veux pas faire office d'obstacle à la justice centrafricaine. Maintenant, permettez que je revienne, parce que c'est extrêmement important de mon point de vue, sur la question de la levée des immunités, professeur. Vous savez, quand on parle d'immunité parlementaire, c'est parce qu'il y a deux caractéristiques, je vais dire. La question de l'irresponsabilité et de l'inviolabilité. L'irresponsabilité, ça veut dire que le député ne peut pas être tenu responsable des actes qu'il commet dans le cadre de l'exercice de sa fonction.
C'est ça.
Et l'inviolabilité, c'est lorsque on ne peut pas, par exemple, poursuivre le député dans l'exercice de ses fonctions, mais l'inviolabilité va en dehors de ses fonctions. Maintenant, ça ne veut pas dire que le député ne peut pas être poursuivi. Le député peut être poursuivi, mais au nom du principe de l'inviolabilité, pour des actions coercitives, il va falloir lever son immunité. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure ici que pour lever son immunité, pour moi, il aurait fallu que le juge décide de retenir contre eux, après instruction, les charges qui sont énumérées comme infractions. À partir de ce moment, il n'y a pas débat. Lorsqu'on envoie le document à l'Assemblée nationale, les députés qui sont patriotes et qui se rendent compte que leurs collègues sont poursuivis et on a retenu à charge contre ces collègues-là des infractions énumérées, il n'y a pas débat. Moi, ce qui me gêne, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore retenu contre eux, après instruction, on n'a pas encore retenu contre ces personnes-là les infractions qui sont énumérées et on décide de lever leur immunité. Oui, pour moi, il y a quand même anguille sous roche.
Oui, je vous donne 30 secondes, M. Diouyabéla, puisque vous voulez réagir. 30 secondes.
Vous voyez le document que le ministre de la Justice a envoyé. Vas-y, on dit pièce jointe. Pièce jointe essentielle pour la procédure. Ce que vous dites est contenu dans le document. Ce n'est que soit transmis. Et il y a un ensemble de documents accompagnant ce soit transmis. Et il y a ces éléments, ce qu'on reproche aux députés, effectivement, ben, lorsque...
Ça veut dire que l'instruction a déjà pris fin. Mais non. Et qu'ils sont poursuivis à charge.
Mais non, pas encore. Est-ce qu'ils ne sont pas encore poursuivis? Je dis l'ensemble en fait, des pièces qui permettent aux juges d'instruction, hein, ce qu'ils leur reprochent, c'est inclus dans le document accompagnant.
Pour moi, professeur, si vous permettez, ça justifie l'instruction. Mais ça ne justifie pas la levée d'immunité. Tout ce qui a été dit justifie l'instruction. Pourquoi le juge d'instruction souhaite auditionner cela? On peut, à titre d'information, saisir l'Assemblée nationale. Ces députés-là, on peut les convoquer sans lever leur immunité. Et lorsqu'on retire la charge, criminelle, ça pose problème.
En matière criminelle, il y a des présomptions de culpabilité.
Nous gagnons du temps. Merci, M. Diouyabéla, de m'avoir donné la parole. Pourquoi la poursuite d'un politique, ce sont toujours les réactions, même si celui-ci pourrait être coupable d'un acte délictuel. Hein. Car en Afrique, je parle de la République centrafricaine, lorsqu'un homme politique est dans le viseur de la justice, on voit l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Donc faire la politique, selon vous, Monsieur Joseph Bendonga, c'est se dépénaliser?
Non. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et si vous lisez bien l'article 23 de la Constitution, toute personne résidant sur le territoire national a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et les règlements de la République. Et avant de faire la politique, il faut connaître la loi. Il faut se battre pour la connaître et éviter de violer la loi. Aujourd'hui, Bendonga viole la loi, mais automatiquement, j'arrive devant le juge. Je dis au juge, j'ai tort, je demande pardon à la société et j'assume ce que j'ai fait. C'est que faire la politique, c'est pas être au-dessus de la loi.
De la loi, ça c'est clair.
Donc, si vous voyez Bendonga tout le temps, on m'arrête tout le temps, on me tabasse, on sort les pistolets pour m'abattre tout et tout, mais j'arrive devant le juge me libère parce que j'y vais avec le droit. Il y a des hommes politiques véreux qui s'amusent avec le droit, mais moi je suis un grand défenseur des droits. D'ailleurs, je suis le premier défenseur des droits en Centrafrique.
Ça, c'est exact. Je suis très heureux d'entendre M. Dumonga. C'est le plus célèbre récurrent devant les juridictions. Et donc, je le salue pour ça.
Ah, vous avez trouvé un point de conciliation.
Et donc, là, de ce point de vue, il a même dit, il a rappelé, personne n'est au-dessus de la loi. Mais par l'histoire de la République, vous avez vu, un empereur de la République est venu se mettre à la disposition de la justice.
Oui,
c'est incontestable.
Oui, et donc, s'il vous plaît.
Quelques secondes, je vous en prie.
Personne n'est au-dessus de la loi, là. Il faut que la procédure montée contre cette personne-là doit respecter les règles de l'art juridique. Et lorsqu'on fait du juridisme pour essayer de concocter des choses, pour que devant le juge du siège... Parce que le parquet va et il y aura un juge du siège,
Je suis ancien DG de l'ENAM.
Et tout le temps, monsieur
à la formation des magistrats, ce sont des professionnels.
Vous n'aviez pas encore retiré.
Non, c'est parce que je vous ai donné 30 secondes, vous avez dépassé. Je vous donne 5 secondes.
Voilà, vous savez, tout le temps, lorsque le parquet instruit un dossier et vient devant le juge, le parquet représente la société et la personne victime. Et s'il présente bien son dossier, eh bien le juge va accepter. Si ce n'est pas bon, le juge le renvoie encore pour essayer de ficeler son dossier. Donc, ce n'est pas pour rien que le parquet est séparé du magistrat du siège.
D'accord, rapidement, mais il y a des voix qui s'élèvent ces derniers temps, M. Paul Christian Beninga, à l'approche de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Les gens pensent que ces procédures lancées contre ces quatre députés visent à les écarter du perchoir.
Attends, on est sur le même pied d'égalité.
Je vous en prie, je pose la question.
Il répond d'abord, et puis on
ce que nous avons reçu en coulisses, est-ce que c'est ça?
C'est l'esprit de mensonge en République centrafricaine.
Ceux qui ont institué cela, mais il y a des juges qui feront leur travail. Sur le plan politique, on veut les embêter et essayer de trouver, chercher des poux sur les crânes rasés. Mais ce que ces gens-là ne savent pas, nos juges du siège se sont toujours assumés.
Oui, c'est ce que vous voulez dire,
non,
monsieur.
On n'a pas encore convoqué une session parlementaire. Parce que là, pour lever l'immunité parlementaire, il n'y a que les députés qui doivent procéder à lever l'immunité parlementaire.
Les députés sont en session.
Ils sont en session.
Pour l'instant,
Les députés sont en session. S'ils sont en session. Ils ont aussi ce dossier.
Voilà. Donc, s'ils sont en session, il y a une commission qui est mise en place pour étudier. Et c'est dans la. À ma connaissance, je ne sais pas si les députés sont en session parce que, habituellement.
Ils sont en
session. Quand on les convoque, nous également participons à la cérémonie d'ouverture de la session.
Oui, mais professeur, vous êtes en décalage.
Non, ce n'est pas en décalage. Je dis, on est souvent associé à l'ouverture d'une session parlementaire. Mais si vous êtes au courant, je ne sais pas.
Mais puisque la session de mars, c'est 3 mois, non?
Ils sont encore en mars,
La session a commencé en mars, avril.
Et le dossier de leur retrait d'immunité là a été confié à une commission.
À une commission ad hoc.
Oui, qui travaille dessus.
Une commission ad hoc qui est en train de travailler.
Oui, donc,
même les députés,
professeur, vous savez, j'ai aussi tort parce que c'est une réaction épidermique que j'ai eue. Mais la question posée par Armando est fondée. C'est que c'est une manière d'embêter ces gens-là et de trouver une petite virgule si la justice se mettait du côté du régime Touadéra. Mais ce sera un échec parce que je pense que nos députés ont une certaine maturité et ce n'est pas sortir un chapelet de huit infractions que... le gouvernement aura raison.
Monsieur Pokessa Beninga, je vous ai donné la parole tout à l'heure. Vous avez été un peu sceptique. Vous finissez rapidement sur cette question-là et puis on boucle.
Non, mais puisqu'ils ont pris tout le temps, je dirais simplement une phrase que je ne crois pas que cette coïncidence soit fortuite.
Voilà, c'est sur ce mot que nous mettons fin à ce débat d'aujourd'hui. Je rappelle que nous l'avions consacré à la demande de la levée d'immunité parlementaire des 4 députés de l'opposition démocratique, Anissé Georges Deleguélé, Martin Ziguélé, Abdoukarim Mekassoua, et Aurélien Simplice Zingas. Vous avez participé peut-être au début, même au milieu de ce débat. Vous nous écoutez partout dans le monde. C'était donc le service à la partie technique de Anne-Alex Pounemati. Nous avions invité autour de cette table M. Paul Cressan Beninga. Il est porte-parole du groupe de travail de la société civile. Merci d'avoir pris part à ce rendez-vous.
Merci Armando.
Merci aussi à vous, M. Joseph Bendunga. Vous êtes opposant, désormais député de la nation. Merci pour votre participation.
Le titre opposant, c'est pas un truc professionnel. Je ne suis pas opposant. Mais je conteste tout ce qui viole la loi.
Vous êtes de l'opposition.
Non. Écoutez,
merci à Armando.
Écoutez, tout le temps opposition, c'est que ceux qui violent la loi, qui ne veulent pas qu'on leur reproche
il
cela.
Il fut de l'opposition extra-parlementaire. Aujourd'hui, il est de l'opposition parlementaire.
Monsieur Sindou Yabila, vous êtes conseiller politique du Premier ministre. Merci aussi pour votre participation à ce débat.
Merci, je profite de votre antenne et puis je salue tous les auditeurs de la rue de Kelouka. Présenter mes félicitations à Joseph Bendunga pour sa brillante élection comme député de Nation. Je pense que avec son dynamisme, il va animer la prochaine législature de prison, on va assister à une législature des députés responsables qui seront.
Et c'est la fin de ce débat. Merci à vous. Rendez-vous à la semaine prochaine.
Vous ne serez pas déçus, professeur.
Même fréquence. Au revoir. Merci.